On parlait de la Sainte Cène. Eh oui, un repas d'alliance que j'ai indiqué. Voilà, donc Jésus a institué le baptême, la Sainte Cène, qui fait partie intégrante de notre vie chrétienne, notre culte, célébré tous ensemble. Et c'est vrai qu'on a l'habitude dans nos églises de célébrer ça pratiquement tous les dimanches. Puis on pourrait se dire, ben pourquoi ? Certaines églises, ils le font une fois par mois, d'autres, ils le font deux fois par année seulement. Et il y a certains éléments aussi dans la Sainte Cène. Et pourquoi, d'où nous vient finalement cette pratique-là ? Et on va le voir. Et j'ai intitulé donc la Sainte Cène un repas d'alliance. Alors il y a une table vide à laquelle on est tous et toutes conviés, évidemment, avec un peu de lumière. Et c'est vrai que c'était... Et on le verra aussi au tout début, lorsque Jésus a institué cette Sainte Cène, eh bien, c'était autour d'un repas. Le Seigneur célèbre la Pâque avec ses disciples juste avant sa mort sur la croix. Et c'était eh bien, une fête importante, la Pâque juive. La Pâque juive, Pessah en hébreu, c'est pas un repas comme les autres. Elle a pour les Juifs une signification bien particulière. Et cette fête commémore la libération du peuple juif de l'esclavage qu'il subissait en Égypte et l'alliance que Dieu a faite avec Israël, notamment en donnant la loi de Moïse. Et il s'agit d'une alliance. Une alliance, ce n'est pas juste un repas, ce n'est pas quelque chose, mais c'est vraiment une alliance. Et on va voir eh bien, déjà l'ancienne alliance qui va nous conduire à la nouvelle alliance. Et le mot Pessah signifie passage. Il désigne le passage du destructeur qui frappe les premiers-nés des Égyptiens et qui va épargner aussi les Israélites. Et ça commémore le passage de la mer Rouge. Les Israélites avaient sacrifié un agneau dans chaque famille et en avaient ensuite enduit les portes de leur maison. C'était le sang eh bien, qui a protégé de l'ange destructeur. Et ce signe a éloigné eh bien, le destructeur de leur foyer. Et ils ont pu passer, ils ont pu sortir d'Égypte. Et la Pâque se célèbre à la maison, mais elle se vit aussi en public par le sacrifice d'agneaux au temple. Et Jésus, lorsqu'il se réunit avec ses disciples pour célébrer la Pâque, va instituer au milieu du repas eh bien, la Sainte Cène. Au milieu d'un repas, comme ça, il y a la Sainte Cène qui va être vécue. Il va marquer le passage entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et Jésus s'y présente comme l'agneau sacrifié une fois pour toutes pour sauver les hommes de la destruction. Alors on va quand même lire ce texte dans Luc 22. Luc 22, versets 7 à 20. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Alors, les pains sans levain, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, hein, mais on a l'habitude des galettes après, mais c'est un pain pas trop levé ou pas levé du tout, c'est en général assez dur. C'est pour ça qu'ils faisaient peut-être des galettes. Enfin, j'étais pas là pour voir, mais. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison « Le maître te dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute aménagée. Et c'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Leur venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce, et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Imaginez Jésus qui est là. Bon, il n'était pas allé à la boulangerie du coin, mais au milieu du repas, il prend un pain là, et puis il le rompt comme ça, puis il dit « Tiens, prenez, ça c'est mon corps. » Un peu choquant, hein ? Pour nous, ça va, on est dans le contexte. Enfin, ça fait des années qu'on célèbre ça, qu'on prend, et il prend du pain, puis il dit « bah, prenez ceci ». Après avoir rendu grâce, il le rompit et le redonna en disant « ceci est mon corps ». Il a fait ça. Quelle forme avait le pain ? Il était sans levain, donc il ne ressemblait pas à ça. Il ne ressemblait pas du tout à ça, mais c'était du pain. Des fois, les gens ils disent « Ah, j'aimerais bien du vrai pain pour la Sainte Cène ». Ben, du vrai pain, selon l'époque, c'était plutôt des galettes. Voilà. En tout cas, ce n'était pas levé, ça c'est certain. Ce n'était pas un bon pain comme ça, mais vraiment un pain rapide. Juste une parenthèse par rapport aussi au message de dimanche passé, où Olivier a parlé de Shema Israël. Écoute Israël, souviens-toi. Écoute. Souviens-toi. Et là aussi, il y a souviens-toi. Faites ceci en mémoire de moi. Intéressant, hein ? Toute l'histoire de la foi, de la vie chrétienne, du peuple élu de Dieu aussi, c'est écoute, souviens-toi. Et là encore, dans la Sainte Cène, eh bien, c'est souviens-toi, dans cette nouvelle alliance, Jésus va dire « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang » juste avant de dire « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et ce Shema Israël vient de Deutéronome 6. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, la barre est haute. » Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur ta main, elles seront comme des frontons entre tes yeux. Waouh ! Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, te donner avec de grandes et bonnes villes, que tu n'as pas bâti, des maisons pleines de toutes sortes de biens, que tu n'as pas remplies, des citernes creusées, que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers, que tu n'as pas plantées, lorsque tu mangeras et te rassasiras. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, c'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. Vous ne vous le rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, elle t'exterminerait de la surface du sol. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez bien les commandements de l'Éternel votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'il vous a commandées. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, en repoussant tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque demain, ton fils te demandera, que signifient ces déclarations, ces prescriptions, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandées, tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. L'Éternel a opéré sous nos yeux des signes, des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses prescriptions, de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Je trouvais intéressant de lire en parallèle au texte où Jésus a pris la Sainte Cène, ce texte qui rappelle d'inculquer, d'enseigner, de rappeler ces choses. Tu diras à ton fils, tu garderas. Tout ça dans le but d'être heureux. Vous pouvez relire, j'ai lu ça assez rapidement, Deutéronome 6, évidemment. Ça, vous retrouvez aussi ces messages sur le site internet, vous pouvez prendre des notes, mais relisez ces textes et mettez en parallèle le fait de prendre la Sainte Cène et aussi de se souvenir d'où on a été tiré. Et lorsqu'on prend la Sainte Cène, on se souvient aussi de ce passage, cette libération. On va y revenir. Comme j'ai dit, dans la Bible, les alliances étaient souvent scellées ou célébrées par un repas. Et ce repas servait de symbole concret pour marquer l'engagement entre les parties impliquées. Tout au long de la Bible, il y a des repas. Tout à l'heure, j'imagine, vous prendrez aussi un repas. Et c'est bon, on aime bien prendre des repas. Parfois, on prend des repas avec d'autres personnes, et c'est bon. On voit les alliances. L'alliance avec Abraham a été scellée aussi autour d'un repas. L'alliance au Sinaï aussi, j'y reviendrai. La Pâque, ces repas d'alliance aussi, étaient des moments de communion, célébration aussi d'engagement solennel. Mais j'aimerais juste rappeler encore quelques repas d'alliance avant de venir à la nouvelle alliance. Un aperçu eh bien, des principales alliances bibliques et leur signification. On va voir ces alliances avec Adam, Noé, Abraham, Moïse et David pour arriver à Jésus, évidemment, et la nouvelle alliance. Déjà, l'alliance avec Adam, que vous trouvez dans Genèse 1, 26, ou Genèse 2, c'est une alliance créationnelle, mais aussi conditionnelle, conditionnelle à une certaine obéissance. Dieu crée Adam et Ève à son image, leur donne la domination sur la création, il les bénit, il leur ordonne de se multiplier et de remplir la terre. Et Dieu pose une condition, ils ne doivent pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la désobéissance va entraîner la mort spirituelle et physique. C'est une alliance. Et l'importance, cette alliance met en place la responsabilité humaine, aussi sur... envers Dieu et envers la création. Et très rapidement, malheureusement, en tout cas ça se passe très rapidement dans nos Bibles, vu que c'est déjà dans Genèse 3, on vient de commencer que ça se passe déjà mal, il y a l'humain brise cette alliance, mais Dieu promet déjà, lisez dans Genèse 3,15, Dieu promet déjà le salut. Dieu annonce déjà Jésus-Christ. Déjà là, il conduit vers Jésus. L'alliance avec Noé, un petit peu plus tard, on trouve ça dans Genèse 9. Alors là, c'est une alliance inconditionnelle. En fait, même si l'être humain se comporte mal, c'est une alliance qui dure pour toujours. Après le déluge, Dieu promet à Noé et à toute l'humanité qu'il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. C'est une promesse immuable. Peut-être Dieu détruira la terre d'une autre manière, mais plus par un déluge total qui recouvrirait toute la terre. Et Dieu a donné, et on aime bien le voir, à chaque fois eh bien, qu'il pleut et qu'il y a du soleil, un bel arc-en-ciel. Vous remarquez l'arc-en-ciel, comment il a été détourné de son symbole. Maintenant, quand on voit un arc-en-ciel, on pense tout de suite à autre chose. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre. Comment ? Eh bien, certains symboles vraiment de vie ont été détournés. Des symboles qui ont été détournés de leur origine. Souvenons-nous que c'est Dieu qui a donné l'arc-en-ciel, et pour un but bien précis. Et l'important, cette alliance montre la grâce universelle de Dieu envers l'humanité, malgré son péché persistant. Et ça réaffirme aussi l'engagement de Dieu envers sa création. Et il prépare aussi le terrain pour des alliances futures. Abraham. Abraham, on le trouve dans Genèse 12. C'est riche, hein, le livre de la Genèse. Vous l'avez lu dernièrement ou... Peut-être vous ne l'avez jamais lu encore, moi je vous encourage à le lire. C'est vraiment un livre assez accessible dans la plupart des textes. Il y a certains textes peut-être un petit peu plus compliqués, mais ça vaut la peine. Il y a vraiment toutes les origines aussi. et on voit tous ces patriarches qui sont là, et on découvre ces personnages que je cite en ce moment. Donc Abraham dans Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17, là aussi, c'est une alliance de type inconditionnel. Dieu appelle Abraham à quitter son pays et promet de faire de lui une grande nation, de bénir toutes les nations à travers sa descendance et de lui donner la terre de Canaan. Et le signe de cette alliance, eh bien, ça va être la circoncision. L'importance de cette alliance, eh bien, c'est cette alliance au cœur du plan de salut. Elle promet une bénédiction universelle de la descendance d'Abraham. Et aujourd'hui encore, eh bien, il y a toujours un reste. Et c'est ultimement accompli au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est de la descendance d'Abraham. Et elle établit aussi Israël comme le peuple de l'Alliance. L'Alliance avec Moïse. Alors, Moïse, on change de livre, on le trouve dans l'Exode, Exode 19, Deutéronome. Cette alliance de type conditionnel, là aussi, Dieu délivre Israël de l'esclavage en Égypte et conclut une alliance avec eux au mont Sinaï. Israël reçoit la loi, la Torah, ce qu'on connaît souvent, il y a eu des films aussi, mais ça se trouve dans la Bible, hein. Avant qu'on en fasse des films, il y a eu les 10 commandements. Et l'original est toujours mieux que l'imitation ou l'illustration du texte. Donc lisez ces textes aussi. Israël reçoit la loi, et Israël par extension nous aussi, comme condition aussi de leur relation avec Dieu. Et les bénédictions ou les malédictions dépendent de leur obéissance à cette loi, à cette parole que Dieu va donner. Alors cette alliance, elle est aussi importante parce qu'elle fait d'Israël une nation sainte et distincte. On le voit dans Exode 19, versets 5 à 6. Et elle révèle aussi la justice de Dieu et la nécessité de la sainteté. Elle montre aussi l'incapacité de l'humanité à respecter pleinement les exigences de Dieu. On arrive face à un mur avec la loi et on se rend compte qu'on n'arrivera jamais à la hauteur des exigences de Dieu. Et ça pointe vers le besoin d'un sauveur. Alors toute l'histoire de l'Ancien Testament, il y a ces sacrifices qui vont être établis, et Dieu va dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc le sang qui va couler des animaux va servir en quelque sorte à payer à la place des humains pour leur péché. Mais ça pointe déjà vers l'agneau sans tache. Et on arrive gentiment à la Pâque. Et encore une, comme vous le voyez, l'alliance avec David, il y en a d'autres. Mais dans 2 Samuel 7, psaume 89 ou 1 Chronique 17, l'alliance avec David, là aussi une alliance inconditionnelle, Dieu promet à David que sa descendance régnera éternellement. Et pourtant, ça s'est assez rapidement gâté juste après David. Mais il y a cette promesse que la descendance de David régnera éternellement. Il affirme aussi la fidélité de Dieu à son peuple et son engagement à travers l'histoire. Et c'est là qu'on arrive à la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Dans Jérémie 31, c'est déjà annoncé, donc Jérémie, qui a vécu quelque chose comme entre 593 et 571 avant Jésus-Christ, il a plutôt exercé son ministère à peu près 22 ans. C'est ce que je laisse ça aux théologiens et aux historiens le soin de vérifier. Hein, c'est ce qui fait un petit peu foi. Donc, il a vécu quand même passablement de temps. Tout ça pour dire qu'il a vécu très longtemps avant Jésus. Il va dire ceci ou il va prophétiser ça. Il va annoncer la nouvelle alliance. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je me souviendrai plus de leurs péchés. » Je conclurai une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle, c'est assez fou de se dire que 600 ans avant Jésus-Christ, c'est annoncé déjà depuis la Genèse, comme je vous l'ai dit. Mais Dieu promet de transformer le cœur de son peuple en écrivant sa loi dans leur cœur, en leur donnant son esprit. Et cette alliance est scellée par le sang de Jésus-Christ qui accomplit toutes les alliances précédentes, toutes celles que j'ai citées juste avant, eh bien, vont être accomplies en Jésus. Elles ne vont pas être effacées. Elles ne vont pas être supprimées, mais elles vont être accomplies en Jésus. Jésus va les réaliser pleinement dans sa personne. Moi, je ne sais pas vous, mais quand je lis ces textes, quand je me souviens aussi de tout cela, je me dis, mais quelle chance, quelle grâce plutôt, que chance, parce que c'est une grâce, que je ne sois pas né 600 ans avant Jésus, quoi, ou même avant. Bah déjà parce que je ne suis pas d'origine juive, donc voilà, donc les païens, les non-juifs, ça nous montre aussi que si on n'est pas du peuple de Dieu, eh bien ça se passe mal. Et aujourd'hui encore, eh bien il y a cette extension aussi de la grâce et du peuple de Dieu, et c'est tant mieux pour nous. Et c'est l'accomplissement final du plan de salut de Dieu. Cette nouvelle alliance offre un accès direct à Dieu, le pardon total des péchés et la vie éternelle. Donc Dieu est un Dieu d'alliance et il faut impérativement voir la Sainte Cène comme une alliance. Et Jésus va dire que c'est une nouvelle alliance en son sang. Donc la Sainte Cène, c'est comme un repas d'alliance. Lorsqu'il institue la Sainte Cène, Jésus montre que ce repas est l'accomplissement de tout ce qui précédait avant et il marque l'inauguration d'une nouvelle ère. C'est ce qui est déjà prophétisé par Jérémie. Et le pain, Jésus va dire dans Luc 22, versets 19 à 20, comme je l'ai cité tout à l'heure, lu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Le pain représente son corps sacrifié pour établir cette nouvelle alliance. Et il rappelle le don total de Christ pour le salut des croyants. C'est intéressant aussi de voir que Jésus est né à Bethléem, qui signifie « maison du pain ». Et on rompt le pain lorsqu'on prend la Sainte Cène. Alors il y en a qui le rompent pour vous, voilà, et c'est mis dans des petites corbeilles, mais on rompt ce pain. Ce pain sec, enfin voilà, ou ces galettes, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Il y a sûrement un nom, mais ce qu'on va vous distribuer tout à l'heure, voilà. On rompt ce pain et on exprime par là eh bien, que Jésus a offert son corps pour nous sauver et que tous ceux qui croient eh bien, peuvent recevoir le salut. Le salut. Et le vin, ou le jus de raisin, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Le vin symbolise le sang versé pour le pardon des péchés. Et le sang était essentiel dans les alliances bibliques parce qu'il représentait la vie donnée pour sceller l'engagement. Et dans Lévitique 17, verset 11, il est écrit « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Donc la vie, c'est le sang. Et le jus de raisin ou le vin symbolise eh bien, ce sang, symbolise aussi eh bien, le sang que Jésus va verser sur la croix peu de temps après eh bien, qu'il ait vécu cette Pâque avec ses disciples. Et ces éléments font de la Sainte Cène un repas d'alliance où les croyants se rappellent que leur relation avec Dieu repose sur le sacrifice parfait de Jésus. C'est un repas d'alliance, mes frères et sœurs. Des fois, on parle de renouvellement, de quelque chose, on ne renouvelle rien du tout. On se rappelle. Ce n'est pas comme si aujourd'hui je renouvelle, puis dans deux semaines je ne renouvelle pas. Non, je me rappelle que j'ai fait alliance. Et une alliance, elle est perpétuel dans ce cas-là. La nouvelle alliance, c'est le fondement de la Sainte Cène. La Sainte Cène célèbre la nouvelle alliance prophétisée par Jérémie, où j'ai lu tout à l'heure ce texte. Je conclurai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Et les caractéristiques de cette nouvelle alliance, c'est une transformation intérieure. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a le Saint-Esprit qui vient, mes frères et sœurs, ou qui devrait venir. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut pas recevoir le Seigneur, bien évidemment. Mais il y a cette effusion aussi du Saint-Esprit, eh bien, qui manifeste toute la présence de Dieu. Il y a une transformation intérieure. La loi de Dieu est plus gravée sur des tables de pierre, mais dans le cœur des croyants. Est-ce que la loi de Dieu, elle est juste comme une loi très externe à votre vie ? C'est juste la Bible. Et vous lisez ça comme un code de la route ou un code de loi ou je ne sais pas quoi. Fais ceci, fais pas ça. Cette proximité avec Dieu, nous dit Jérémie aussi, eh bien fait que la loi de Dieu, ce que Dieu aime, vient graver, être gravée dans nos cœurs. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rappelle à notre esprit aussi, qui témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu et qui rappelle toutes ces choses. C'est pour ça que c'est important d'être rempli aussi du Saint-Esprit. Et à cette réconciliation aussi totale grâce au sang de Christ, eh bien, les péchés sont pardonnés définitivement. Lisez Hébreux 10. Il y a aussi une relation directe à chaque croyant, à un accès personnel à Dieu sans intermédiaire humain. Dans 1 Timothée 2,5, il est dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ, Jésus, homme. » Et on peut s'approcher de Jésus. Vous pouvez vous approcher au travers de ce repas d'alliance de Jésus. La Sainte Cène, c'est donc ce rappel que les croyants vivent sous cette nouvelle alliance caractérisée par la grâce et le rachat de Jésus. La Sainte Cène, encore, c'est comme un moment de communion. Un repas d'alliance, ce n'est pas seulement une cérémonie, mais c'est aussi une communion profonde entre les participants et Dieu. Tout au long de la Bible, on voit ces repas qui vont rythmer eh bien, ces alliances. Communion avec Dieu, évidemment. Et là, on peut être très spirituel, on peut dire, voilà, je suis vraiment dans la présence de Dieu. Mais c'est communion aussi avec les autres. En prenant part au repas, les croyants expriment leur foi en Jésus-Christ et leur appartenance à Dieu, évidemment. Ils se rappellent que par la mort et la résurrection de Christ, ils sont réconciliés avec Dieu. Beaucoup de versets bibliques nous le disent, et tout ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. On est appelé aussi à transmettre la réconciliation. Et la Sainte Cène devient un moment d'intimité spirituelle où on mange et on boit symboliquement avec Dieu, comme les anciens. On parle souvent de Moïse, mais relisez dans Exode 24, il y a les anciens d'Israël, ils étaient 70, avec Moïse, Nadab, Abihu, avec 70 anciens d'Israël, eh bien, qui ont, juste avant que Moïse monte sur la montagne, reçoivent les tables de la loi, ils ont pris un repas. Intéressant. Communion avec les autres croyants. Paul va insister sur l'unité du corps de Christ. Un petit peu plus loin, quand Jésus est remonté au ciel, Paul donne aussi certains éléments de la Sainte Cène dans 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17, il va dire « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps. » On est un seul. Regardez la diversité autour de nous, c'est beau. Au milieu de nous, je veux dire. C'est beau. Il n'y a pas le pain pour les Suisses, les Valaisans, les Vaudois, ceux qui viennent du continent africain, du Brésil, du Portugal. Non. Il y a un seul pain. Et même si on est nombreux, eh bien, on forme un seul corps. Et en partageant la Sainte Cène, eh bien, les croyants affirment leur appartenance à une communauté unie qui transcende aussi les différences sociales, culturelles, ethniques. La Sainte Cène, c'est encore le souvenir de notre engagement. Notre engagement. Un repas d'alliance, c'est aussi une occasion de se souvenir, pas de renouveler, mais de se souvenir de l'engagement mutuel des parties impliquées. Et en prenant part à cette Sainte Cène tout à l'heure, eh bien, on se souvient qu'on a fait alliance avec Dieu, que Dieu a fait alliance avec nous, évidemment, mais aussi on fait alliance avec le corps du Christ, qui est aussi son Église. Et son Église, c'est vous. Ce n'est pas le bâtiment. Hein. n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous ensemble. Et à cet engagement de Dieu, à chaque sainte scène, Dieu rappelle son amour inébranlable, sa fidélité envers son peuple. Le sacrifice Jésus, c'est la preuve que Dieu tient toujours ses promesses. Dans Romains 5,8, il écrit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Comme j'ai dit, il y a l'engagement des croyants. En participant à la scène, les croyants réaffirment leur engagement envers Dieu. Ils proclament aussi qu'ils vivent sous la seigneurie de Jésus-Christ et qu'ils acceptent de marcher dans ses voies. Ça, c'est pas mal. Mais Paul exhorte encore les croyants à s'examiner avant de participer pour s'assurer qu'ils s'approchent de ce repas avec un cœur pur et sincère. Dans Corinthiens 11, 28 et 29, il est dit que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est sérieux, mes amis. Et c'est pour ça que ce matin, eh bien, j'ai été appelé à partager ça. C'est vrai que ça peut devenir une habitude, ça fait partie de la tradition, comme ça, à la fin du culte, il y a la Sainte Cène, et on va la prendre. Et des fois, il faut vite le faire parce que le prédicateur a prêché un peu longtemps ou je ne sais pas, puis il y a le rôti qui est en train de cramer à la maison, donc il faut vite faire. Mais c'est sérieux. C'est ni un porte-bonheur, ni un acte religieux à faire comme ça, mais c'est vraiment le souvenir d'une alliance. Que Dieu a fait alliance avec nous et que nous, on a fait alliance avec lui. Et c'est merveilleux, le souvenir aussi du banquet céleste. La Sainte Cène ne regarde pas seulement en arrière vers la croix et puis on revient toujours à la croix. Et puis c'est bien hein, de se souvenir parce que sans la croix, si on oublie la croix, eh bien on oublie d'où on est sauvé. Mais La Sainte Cène regarde aussi en avant. Dans Matthieu 26, 29, Jésus va dire « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Waouh ! Vous savez qu'on prendra la Cène au ciel, dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas quel corps on aura, je ne sais pas comment on sera. On sera tous magnifiques. Mais en tout cas, Jésus dit qu'il y aura du vin nouveau, qu'il y aura eh bien, cette communion qui sera parfaite. La Sainte Cène, c'est donc une préfiguration du repas des noces de l'agneau, mentionné dans Apocalypse 19, où tous les croyants partageront une communion parfaite avec Christ dans son royaume éternel. Tous, communion parfaite, incroyable. Enfin, incroyable, mais vrai, hein? Alors, quelques implications pratiques avant de terminer. Vivre la Sainte Cène, c'est important de la vivre comme un repas d'alliance. Un repas d'alliance, avec reconnaissance. Se rappeler le prix payé par Christ et vivre dans la gratitude pour cette grâce immense, la reconnaissance. Avec introspection aussi, s'examiner soi-même. Avant de participer, s'examiner, confesser ses péchés, se réconcilier avec les autres, si nécessaire. Vous remarquerez que c'est écrit que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Là, je suis en train de dire, c'est pas de s'examiner puis de pas prendre. Là, ce sera un échec. Mais le but de s'examiner, c'est non plus pas de tomber dans le découragement. Mais c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ce salut. Et je ne veux pas prendre indignement, car celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang, sans discerner ce sacrifice, c'est sérieux. Avec espérance aussi, la Sainte Cène nous remplit d'espérance pour l'avenir en nous rappelant que Christ reviendra. Et avec communion aussi, s'approcher de la table non seulement comme des individus, mais comme une communauté remplie de cet amour de Dieu et unie pour l'amour et par l'amour de Dieu. En résumé, donc, pour terminer, la Sainte Cène, c'est une commémoration de la mort de Christ, un souvenir, pas un renouvellement, un souvenir. Tout est accompli. Jésus va dire à la croix, tout est accompli. Faites ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons dans l'adoration de ce que Jésus a fait il y a 20 siècles sur la colline de Golgotha. On se souvient. Faites ceci en mémoire de moi. Ce serait dommage de célébrer la Sainte Cène avec un Jésus absent. C'est comme c'est dommage d'ailleurs de célébrer Noël avec un Jésus absent aussi. Mais célébrer Noël, enfin le nom, pas le nom, mais je dirais la naissance, le jour, même si ce n'est pas le bon jour, sans qu'il y ait le principal intéressé qui soit invité. Une communion aussi avec la mort de Christ. On transcende le temps et l'espace et on se retrouve en esprit avec le cœur au pied du Sauveur. On communie avec ses souffrances aussi. Et on se donne aussi en sacrifice vivant à lui. Et une prédication aussi de la mort et du prochain retour en gloire. Car moi, dit Paul, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, c'est dans Corinthiens 11, 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez ». Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera et boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est une prédication. On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce rappel. Et cette alliance dépend de son sacrifice. La Sainte Cène, vous l'aurez compris, c'est bien plus qu'un rituel, c'est un repas d'alliance. Et c'est très important dans la Bible, cette alliance, ce souvenir. Un moment où les croyants se rappellent que leur relation avec Dieu repose sur le sang de Christ, où ils communient avec lui entre eux, où ils renouvellent leur engagement à vivre pour sa gloire. En participant à la Sainte Cène, les chrétiens proclament aussi l'œuvre de salut, l'accomplissement final de cette alliance aussi dans l'éternité. Et c'est pourquoi celui qui prend part à la Cène doit être impérativement né de nouveau. C'est important. Impérativement né de nouveau. On ne peut pas vivre n'importe comment et prendre part à ce repas. Ça implique que la personne soit passée par la nouvelle naissance. La personne qui prend le repas du Seigneur, qui n'est pas baptisée, devrait songer vivement à le faire aussi. Parce que la Cène rappelle aussi notre engagement, notre alliance à Dieu avec Dieu par les eaux du baptême. Si on n'a pas fait alliance, comment prendre part à une alliance qu'on n'a pas faite ? Et Dieu a déterminé que notre engagement avec lui se signifiait, non plus par la circoncision, mais par le baptême. Juste pour terminer, après quoi on prendra la Sainte Cène, juste lire ce qu'on trouve dans la confession de foi des églises de réveil à laquelle on est rattaché, de Suisse et de France, par rapport à l'article 7 sur l'Église. Alors une confession de foi, c'est toujours un condensé, etc. Parfois, il faut lire. Mais pour toutes les personnes qui sont membres de l'Église, vous avez reçu aussi cette confession de foi. Ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez nous en faire la demande. Et c'est volontiers qu'on vous transmettra aussi les documents et cette possibilité d'être attaché aussi à cette assemblée et de participer aussi aux décisions. Article 7 de la Confession de foi, l'Église, nous affirmons l'institution divine de l'Église universelle. Elle est composée de tous les croyants sauvés par Jésus-Christ au travers des siècles et du monde entier.
Elle est dotée de tous les ministères mentionnés dans le Nouveau Testament. Selon la Bible, nos communautés sont formées de croyants convertis à Jésus-Christ, baptisés d'eau par immersion, et appelés à marcher dans la sanctification voulue par Dieu en produisant le fruit de l'Esprit. Les communautés locales sont l'expression visible de l'Église universelle, corps de Christ dont il est le seul chef. Les pasteurs avec les anciens sont les responsables assumant la tâche de diriger nos communautés. Ils président la scène, symbole du corps et du sang du Sauveur. Ils administrent aussi le baptême d'eau et pratiquent l'onction d'huile avec l'imposition des mains en priant pour les malades en vue de leur guérison. Les charges matérielles sont confiées aux diacres dont l'office est d'assister les anciens. Chaque membre doit exercer dans l'intérêt de tous les dons reçus de Dieu. Car la mission de tous les membres de l'Église est de glorifier Dieu par la louange, le service et le témoignage. Le salut venant des Juifs, l'Église prie pour la paix de Jérusalem et la réconciliation des peuples en Jésus-Christ. Et il y a toute une série de versets bibliques qui sont cités pour appuyer ça. Et ça se termine, nous affirmons dans l'attente des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où Dieu sera tout en tous, l'urgence d'obéir au commandement du Seigneur Jésus, annoncer la bonne nouvelle du salut à toute créature. Apocalypse 21, Matthieu 28, 19. Voilà, mes amis, un repas d'alliance. Un repas d'alliance. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses que j'ai estimées utiles et importantes de rappeler. Par rapport aussi à cette sainte scène qu'on prend régulièrement, pratiquement chaque dimanche, sauf à de rares occasions, et je crois que la Bible nous y invite. Si on citait aussi tous les livres, tous les textes dans les Actes des Apôtres, on voit que chaque jour, chaque fois qu'ils se réunissaient, eh bien, ils rompaient le pain. Et ce n'est autre que le partage de la sainte scène. Plus tard, on voit avec les indications de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, eh bien, qu'il y avait aussi d'autres indications. Ça a un petit peu, non pas évolué, mais l'Église grandissante, eh bien, il y a eu d'autres indications qui ont été transmises par l'apôtre Paul. Mais la signification reste la même. C'est ce repas d'alliance. Et on se souvient de l'alliance qu'on a faite, qu'on a prise avec Jésus. Et vous l'aurez remarqué, ce texte nous dit que chacun s'examine soi-même et qu'il prenne. Je vous ai dit que c'est aussi pour des personnes qui sont nées de nouveau et qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont passées par les eaux du baptême aussi. C'est juste dans l'ordre aussi dans lequel eh bien, c'est décrit dans la parole de Dieu. Et selon aussi notre compréhension. Et ce matin, eh bien, je vous propose juste de vous souvenir de cette alliance. Peut-être certaines choses vous ont parlé plus que d'autres dans cette prédication. Souvenez-vous et venez vers Jésus. Mais surtout, souvenez-vous de l'alliance que Jésus a faite avec nous. Amen. Ben, Seigneur, moi, je veux juste te dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur, pour cette alliance nouvelle en ton sang. Merci parce que tu as accompli, Seigneur, tout ce qui avait été annoncé, prédit, déjà depuis Adam, Seigneur, par ton sang. Tu as déjà depuis Adam, Seigneur, annoncé la solution. Et Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on peut se souvenir de ton sacrifice, on peut se souvenir, Seigneur, de tout ce que tu as accompli pour nous. On peut se souvenir de ton amour et bien plus encore. Merci Jésus pour ton corps. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ta victoire à la croix. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.